Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 3 septembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les ministres iraniens et allemands des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a félicité son homologue iranien. L'Afrique du Sud fait part de sa volonté de promouvoir sa coopération avec l'Iran. Et toujours, les systèmes syriens de défense antiaérienne ont intercepté jeudi des missiles tirés par Israël visant la capitale syrienne Damas. Plusieurs blessés dans un attentat en Nouvelle-Zélande, l'assaillant neutralisé. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères déclarant ce jeudi que les États-Unis n'ont pas une bonne compréhension de la région et de ses habitants, en particulier l'Iran, a réitéré « Les Américains doivent savoir qu'ils ne peuvent parler avec nous qu'avec le langage de respect, la politesse et la logique ». Le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas manqué de critiquer les hypocrisies des Américains qui ont même imposé des sanctions sur la livraison de produits pharmaceutiques et vitaux tels que les vaccins produits en Allemagne. Amir Abdullahian a fait ses remarques lors d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand, s'attardant sur les déconnexions des États-Unis des réalités de la région. Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur le fait que les Américains n'avaient pas une de compréhension claire de la région et de ses habitants, en particulier de l'Iran. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Dans un message, le ministre sud-africain des Affaires étrangères avait fait état de la disponibilité de son pays à coopérer avec la République islamique d'Iran pour renforcer les relations bilatérales, régionales et internationales. Le chef de la diplomatie des Sud-Aide africaine, Naldi Pandor, a félicité Hossein Amir Abdullahian, son homologue iranien, pour avoir obtenu le vote de confiance du Parlement pour le début de son mandat. Dans son message, le ministre sud-africain des Affaires étrangères s'est déclaré prêt à travailler avec Amir Abdullahian pour renforcer les relations entre les deux pays et promouvoir la coopération. Opération bilatérale, régionale et internationale. Le ministre tunisien des Affaires étrangères aussi a félicité son nouvel homologue iranien Hossein Amir Abdullahian. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a félicité la nomination de Hossein Amir Abdullahian à la tête de la diplomatie iranienne. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a réitéré la volonté et la détermination de la Tunisie de développer les relations et la coopération fraternelle entre les deux pays et nations musulmans, à savoir l'Iran et la Tunisie. La marine iranienne ne permettra jamais aux ennemis de perturber la sécurité de la région, dit son commandant. Le commandant de la marine iranienne a affirmé que l'Iran ne permettra jamais aux pays ennemis de perturber la sécurité et la paix dans la région, qualifiant la République islamique d'Iran de signe avant-coureur de paix et d'amitié. L'amiral Shahram Irani a déclaré lors de la cérémonie de clôture de la 6e compétition militaire internationale de plongée profonde organisée par la marine iranienne dans le port de Konarak. Aujourd'hui, nous avons pu agir de manière qui satisfasse tout le monde et ces compétitions sportives montrent la solidarité des nations. L'instauration de la paix et de l'amitié repose sur la persévérance, la résistance et la confiance en soi et l'autosuffisance. Soulignant que l'Iran islamique est un porte-drapeau de paix et d'amitié et tient une main d'amitié aux nations, l'amiral iranien a affirmé « Vous pouvez être sûr que nous ne permettrons jamais aux pays ennemis de perturber la sécurité et la paix dans la région. Nous nous débrouillons seuls et aujourd'hui nous le défendons en tant que pays indépendant en mer. » Aujourd'hui, lorsque les forces armées des pays se réunissent, cela donne un message spécial à l'ennemi et c'est que l'ennemi reçoit bien ce message et comprend que les nations libres vous font face avec fierté, a conclu le commandant de la marine iranienne. Les systèmes syriens de défense anti-aérienne ont intercepté jeudi un missile tiré par Israël visant la capitale Damas, rapporte vendredi l'agence de presse officielle. L'ennemi israélien a mené une agression depuis la direction sud-est de Beyrouth visant la périphérie de Damas, a déclaré une source militaire syrienne. Nos défenses anti-aériennes ont intercepté la plupart des missiles et il n'y a eu que des dégâts matériels selon ce communiqué. Toujours à propos de la Syrie, le ministère syrien des Affaires étrangères a réclamé par le biais de la mission permanente à Genève aux organisations humanitaires internationales d'exercer des pressions sur les autorités d'occupation israélienne pour qu'elles mettent fin aux violations des droits des citoyens syriens dans le Golan syrien occupé et d'intervenir immédiatement en vue de leur permettre de retourner à leur localité. Un communiqué fait savoir que la mission permanente à la demande du ministère syrien des Affaires étrangères avait adressé des messages au bureau du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et au DCICR à Genève pour réclamer d'exercer des pressions sur les autorités d'occupation israéliennes dans le but de mettre fin à leurs pratiques illégales contre les citoyens syriens dans le Golan ou des Syriens occupés et de les obliger à obtempérer aux engagements juridiques internationaux en vertu des conventions de Genève en tant que force existée par occupation. Plusieurs blessés dans un attentat en Nouvelle-Zélande. L'assaillant neutralisé. Au moins 6 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement vendredi 3 août par un individu armé d'un couteau dans un centre commercial d'Auckland en Nouvelle-Zélande. L'assaillant a été abattu par la police. La Premier ministre a avancé une attaque terroriste. Et un extrémiste violent a mené une attaque terroriste contre des Néo-Zélandais innocents Mohamed, annoncé la Premier ministre après les faits. D'après elle, l'assaillant est un ressortissant sri-lankais qui habitait la Nouvelle-Zélande depuis 10 ans et était une personne d'intérêt pour les services de sécurité depuis environ 5 ans. Il a été tué une minute après le début de l'attaque, précise-t-elle, ajoutant qu'il avait été inspiré par le groupe terroriste Daesh. L'Afrique montre des progrès dans la mise en œuvre de l'initiative mondiale sur les migrations, affirme en fait la Commission économique pour l'Afrique. L'Afrique a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de l'initiative mondiale visant à garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui menace la durabilité des gains, selon un communiqué de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. La nouvelle a été annoncée lors de l'événement virtuel de 5 jours sur la mise en œuvre de l'examen régional de l'initiative intitulée Pacte mondial pour les migrations qui s'est achevée en fait récemment. Dans un rapport sur les migrations continentales rédigé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et présenté lors de la réunion, le nombre de migrants en Afrique est passé de 23,5 millions à 26,5 millions entre 2015 et 2019, soit une augmentation de 13%, un taux supérieur à la moyenne mondiale de 9,6%, représentant 9,8% de la population migrante mondiale. Le rapport précise par ailleurs que les destinations de la plupart des migrants étaient en Afrique plutôt qu'en Europe ou en Amérique du Nord, tandis qu'environ 86% des migrations n'étaient pas liées à des conflits. Eh bien, c'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre beau commentaire politique. Les États-Unis sont déconnectés des réalités de la région, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères en déclarant ce jeudi que les États-Unis n'ont pas une bonne compréhension de la région et de son peuple, en particulier l'Iran, a réitéré. Les Américains doivent savoir qu'ils ne peuvent parler avec nous qu'avec le langage de respect, la politesse et la logique. Le chef de la diplomatie iranienne a tenu ses déclarations à l'occasion d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand, Heiko Maas. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a dit lors de cette conversation téléphonique avec Hossein Amir Abdullahian que de son pays était prêt à prendre toutes les mesures pour envoyer le vaccin BioNTech à destination de l'Iran. Il a également remercié Téhéran pour avoir facilité le transfert de ressortissants allemands d'Afghanistan pendant les récentes évolutions dans le pays. Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé à cette occasion à la reprise des pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord multilatéral nucléaire de 2015 dès que possible et a souligné la volonté de son pays de promouvoir pleinement les relations bilatérales. Pour sa part, Amir Abdullahian a salué la promotion de la coopération Téhéran-Berlin dans tous les domaines et a appelé l'Allemagne à finaliser les négociations sur l'envoi du vaccin BioNTech. Le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas manqué de critiquer l'hypocrisie des Américains qui ont même imposé des sanctions sur la livraison de produits pharmaceutiques et vitaux tels que les vaccins produits en Allemagne. S'attardant sur les déconnexions des États-Unis des réalités de la région, le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur le fait que les Américains n'avaient pas une compréhension claire de la région et de ses habitants en particulier. De l'Iran. Les Américains devraient savoir qu'ils ne peuvent parler qu'avec le langage du respect et de la logique avec nous. Cette rhétorique qu'ils utilisent de temps en temps contre nous non seulement n'aidera pas à résoudre les problèmes, mais encore elle est elle-même source de tension, a-t-il prévenu. Annonçant que des pourparlers de Vienne dans son principe acceptable pour l'Iran et aura lieu, le ministre iranien des Affaires étrangères a précisé « Nous sommes pour des négociations qui conduisent à la levée effective des sanctions et à assurer les droits de l'Iran ». Il a conseillé à la Troïka européenne de changer son comportement et de mettre fin à son inaction dans l'accomplissement de ses obligations liées au plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire de 2015. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait aborder ce qui se passe actuellement en Afghanistan et plus précisément à Kaboul, capitale de ce pays. Si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte qu'il y a eu des attentats revendiqués par le groupe terroriste Daesh, attentats terroristes dans lesquels des dizaines de civils afghans ont été tué selon en fait un dernier bilan. 90 civils afghans ont été tués dans ces attentats revendiqués par le groupe terroriste Daesh. Le bilan risque de s'alourdir parce qu'il y avait en fait de nombreux blessés dans ces attentats terroristes. Et selon un dernier bilan, 13 militaires américains aussi ont été tués dans ces attentats revendiqués par le groupe terroriste Daesh. Et à l'intérieur des États-Unis, des voix se sont élevées pour réclamer la démission, le départ de Joe Biden. Des voix qui se sont élevées très particulièrement depuis le camp des républicains. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités, mais avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a fustigé les propos de la vice-présidente américaine, Kamala Harris, qui accusait la Chine d'intimidation en mer de Chine méridionale et de saper l'ordre mondial fondé sur des règles. Le ministère affirme qu'un ordre fondé sur des règles américaines signifiait une intervention arbitraire dans des pays souverains considérant ce qui se passe en Afghanistan. Mardi 24 août, lors d'une conférence de presse de routine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a répondu aux remarques de Kamala Harris en ces termes. Ce qui se passe en Afghanistan démontre clairement que le soi-disant ordre fondé sur des règles des États-Unis est un moyen d'intervention militaire arbitraire dans un pays souverain sans être tenu pour responsable des souffrances des peuples. Les États-Unis peuvent aller et venir quand ils le souhaitent, sans consulter la communauté internationale, ni même leurs alliés. Ils peuvent réprimer, intimider ou détruire d'autres pays à volonté sans payer aucun prix, juste pour garder l'Amérique à la première place. C'est l'ordre que les États-Unis veulent imposer aux autres. De son côté, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie souhaitait également travailler avec la Chine pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue et pour empêcher les risques pour la sécurité de se répandre en Afghanistan. Le 15 août, des combattants talibans ont envahi Kaboul sans rencontrer de résistance et ont pris le contrôle total de la capitale afghane en quelques heures. Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré qu'il avait démissionné pour éviter toute effusion de sang et avait ensuite fui le pays. À l'heure actuelle, les pays occidentaux évacuent leurs citoyens et le personnel de leur ambassade.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission consacrée à ces attentats qui ont eu lieu à Kaboul, capitale d'Afghanistan. Je viens de vous le dire tout à l'heure, 90 civils afghans ont été tués dans ces attentats et 13 militaires américains également ont trouvé la mort dans ces attentats revendiqués par le groupe terroriste Daesh. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci. Bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est un géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. M. Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Devollet et à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Monsieur Michel, votre réaction, votre analyse au sujet de ce qui se passe actuellement à Kaboul, très particulièrement en ce qui concerne ces attentats terroristes, s'il vous plaît.
Écoutez, tout d'abord, il faut savoir que le soi-disant nouvel ordre mondial que les États-Unis avaient proclamé à la fin de la guerre froide, c'est en fait une jarre où règne l'anarchie. Il n'y a pas de rapport de sécurité. On plonge des pays dans le chaos et la destruction et on plonge des régions. La seconde chose, évidemment, il faut comprendre que ce qui se passe en Afghanistan, c'est l'application du plan B américain. C'est la géostratégie du chaos. Visiblement, on est en train de remettre un pays aux talibans. Et ce qui se passe actuellement à l'attentat terroriste de Daesh vient à point. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'on doit collaborer avec les islamistes immodérés. Il y avait ce matin sur BFM TV, la télévision française, il y avait un ancien directeur de la DGSE qui tenait ce discours en expliquant que les talibans étaient maintenant des islamistes modérés. C'est un peu ce qui se passe dans de nombreux pays. En fait, les États-Unis ne sont pas dignes de ce rôle leader du monde qu'ils veulent assumer. La jungle, l'irresponsabilité, le non-respect des engagements vis-à-vis des alliés, les sorties sanglantes, les manipulations, c'est cela le nouvel ordre mondial.
Merci beaucoup. L'Iran aussi par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Saïd Khatibzadeh, a condamné fermement ces attentats terroristes revendiqués par le groupe terroriste Daesh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a appelé à l'ouverture des enquêtes pour identifier et traduire en justice et punir les auteurs de ces attentats terroriste. On va partir maintenant tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Devollet. Maître Devollet, vous, quelle analyse portez-vous sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan, s'il vous plaît?
Bien, en un mot, c'est un désastre annoncé qui, juste au moment où on pensait que ça ne pouvait pas apparaître aussi catastrophique que ça a été pendant 20 ans, ça a trouvé le moyen d'être plus catastrophique. C'est pire qu'une défaite, c'est un comment dirais-je, une catastrophe de relations publiques pour les États-Unis. Alors certes, certains analystes laisseront entendre que effectivement l'opération est parfaitement réussie puisqu'il s'agit avant tout d'entretenir le chaos et ce faisant de mettre des bâtons dans les roues dans les relations comment dirais-je régionales que l'Afghanistan est amené à entretenir par d'évidence avec des pays comme la Russie, la République islamique d'Iran et la Chine. Mais ne nous y trompons pas, c'est un désastre opérationnel, stratégique et médiatique pour les États-Unis. Parce que après 20 ans d'occupation du pays, 2000 milliards de dollars, imaginez 2000 milliards de dollars, ce que ça aurait pu faire pour le développement des infrastructures aux États-Unis, pour la recherche, pour l'assurance maladie. Cet argent est allé dans les poches des contracteurs, est allé dans les poches des néoconservateurs, des centres de réflexion et a alimenté, si je puis dire, la porte tournante entre les gens comme, qui travaillent au Pentagone et qui ensuite deviennent consultants. Donc tout le monde s'est bien engraissé sur l'argent public et à la fin de l'histoire, si je puis dire, la situation est la suivante. Il n'y aurait pas moins de 10 000 Américains, je répète, 10 000 Américains, des citoyens américains qui sont actuellement, à l'heure où nous parlons, bloqués en Afghanistan, que Joe Biden a fait une conférence de presse hier soir, c'était un désastre. Il n'a même pas pris de questions, il était en retard de 25 minutes. Vous ajoutez à ça, effectivement, dans votre reportage, vous le soulignez, les déclarations de Kamala Harris au Vietnam, en présence du Premier ministre vietnamien, qui était... Des déclarations, bien sûr, complètement hors cadre, si je puis dire, et hors de tout protocole à l'encontre de la Chine, indirectement, bien sûr, sur l'histoire de la présence chinoise, l'influence chinoise, présumée néfaste en mer de Chine, mais aussi, vous l'avez souligné, quant à l'Afghanistan. Il se trouve que, effectivement, maintenant, la situation est claire. Les talibans ont repris le contrôle. Pour ce qui concerne la Russie, même si elle n'a pas reconnu officiellement les talibans comme le gouvernement légitime, elle prend acte de leur contrôle de facto du pays. Et quant à la Chine, ben, elle s'apprête à ouvrir des relations, bien sûr, parce que la réalpolitik prime. On est encore dans le domaine du réel avec les puissances eurasiatiques. Alors que les Américains sont encore dans une situation où maintenant il semblerait qu'il y ait deux factions, plus ou moins deux tendances qui émergent. La première, comme Luc Michel l'a souligné, ce sont les partisans du chaos perpétuel. Pour faire échec, on peut imaginer à l'avènement des routes de la soie, entre autres choses, mais aussi probablement à des intérêts au-delà de l'État américain qui ont quelque part peut-être tout intérêt à faire apparaître l'État fédéral, le représentant de l'État-nation, comme étant complètement incompétent et dépassé par les événements, en vue peut-être d'avancer leur pion dans ce qu'on peut penser être une forme de gouvernance mondiale composée d'experts et de technocrates. C'est tout ce qu'on peut dire. Mes condoléances, bien sûr, vont... famille des 90 victimes, mais malheureusement j'ai bien peur que ce ne soit que le début d'un nouveau cycle, puisque déjà Bernard-Henri Lévy a pris rendez-vous avec le fils de feu général Massoud, et qu'on s'apprête peut-être maintenant à avoir un nouveau cycle de violence entre les milices talibanes et une espèce de nouvelle version de l'Alliance du Nord, j'allais dire.
Luc Michel, en fait, à l'intérieur des États-Unis, des voix s'élèvent en fait contre le président américain Joe Biden, et d'une part et d'autre part, vous de mettre au dévelé, vous dites que la stratégie consiste à en fait faire pérenniser le chaos et l'instabilité en Afghanistan.
Écoutez, il faut constater que la défaite sans gloire militaire, même si elle se double d'un coup de succès stratégique qui est le chaos, elle va peser lourd dans les élections de mi-mandat qui se préparent aux États-Unis. C'est une divine surprise pour les républicains. Donald Trump est en train de se relancer dans la politique en dominant le parti républicain et en demandant la démission de Joe Biden. Il y a une hypocrisie dans tout cela, c'est que précisément le retrait d'Afghanistan, il a été établi sur des plans de l'administration Trump. Mais ce qu'il faut revenir au milieu de tout cela, c'est la faillite de l'américanisme, de l'idéologie américaine, et la faillite de tous ceux qui la soutiennent dans le monde. On voit actuellement tous ces gens qui ont depuis 40 ans assuré la destruction de l'Afghanistan, qui ont assuré la guerre contre les Soviétiques, qui ensuite ont amené les talibans au pouvoir. On voit ces gens aujourd'hui donner des leçons de droits de l'homme, de droits de la femme, de bonne démocratie, de gouvernance. On voit ce criminel de guerre qui est Bernard-Henri Lévy reprendre du service au service du Quai d'Orsay, du State Department. Il est actuellement en mission pour le State Department américain. En Afghanistan. On voit toute cette série d'intellectuels qui nous ont vendu la démocratie américaine refuser de constater qu'ils avaient plongé un pays dans la destruction et le malheur. Vous savez, lorsqu'un régime politique croit sa propagande, il est proche de la fin. C'est ce qui est arrivé aux nazis à partir de 1941. C'est ce qui se passe aux Américains aujourd'hui. La chute de la Maison Amérique, elle repose simplement parce qu'ils ont cru eux-mêmes à leur propre propagande et que cette propagande, elle repose sur une imposture. Cette prétention à être la nation élue, la manifeste destinée, comme ils disent, destinée à gouverner les peuples du monde. L'Amérique, en fait, c'est le chaos. L'Amérique, c'est l'instabilité. L'Amérique, c'est une classe politique irresponsable. C'est cela qu'on retiendra à l'histoire lorsque l'Amérique se sera effondrée.
Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Warren Devollet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Parole d'experts.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que le retrait chaotique des forces occidentales d'Afghanistan a mis en évidence la nécessité que l'Union européenne soit capable de lancer des interventions militaires en situation de crise sans avoir à dépendre des forces américaines. Nous n'avons pas besoin qu'un autre événement géopolitique du même type survienne pour comprendre que l'Union européenne doit faire tout son possible pour accentuer son autonomie dans la prise de décision et augmenter sa capacité d'action à travers le monde, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Charles Michel à l'occasion du forum stratégique de Bled, du nom de la ville slovène accueillant cette conférence annuelle. Comment analyser cette déclaration du président du Conseil européen Charles Michel au sujet de la défaite américaine en Afghanistan? Xavier Dupré, expert politique et économiste belge, nous répond.
Tout d'abord, ma réponse se tiendra en trois points. Tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir dire à quel point ce retrait d'Afghanistan marque une défaite et un échec dans le chef des États-Unis. Le retrait est effectivement, ça il faut donner raison à M. Michel, qui a été le Premier ministre de la Belgique et qui est belge, ce retrait a été absolument chaotique puisqu'aujourd'hui, il semblerait que les talibans disposent de données biométriques, donc empreintes digitales et divers moyens de reconnaissance, du personnel qui a aidé les militaires occidentaux. Donc les États-Unis, lorsqu'ils se sont retirés très récemment de l'Afghanistan, n'ont pas pris toutes les dispositions qui permettaient de sécuriser leurs collaborateurs sur place. On pourrait presque parler de ce point de vue-là de trahison, ou en tout cas d'abus de confiance. Donc cet échec est patent, il est manifeste, il est évident et il est grave. Alors, la question d'une défense européenne, ça c'est le deuxième point, est principalement motivée en ce qui concerne le dossier afghan par le risque manifeste d'une vague de migration afghane qui pourrait éventuellement toucher l'Europe. Donc il y a une volonté de stabiliser des populations sur place par une force d'intervention qui pourrait quelque part restabiliser le jeu afghan, puisque on remarque quand même que dans certaines régions du pays, donc le Panjshir au nord de l'Afghanistan ne semble pas s'aligner sur le nouveau pouvoir à Kaboul. Bien, oui, ça c'est, tout ceci est fait dans l'intérêt de, dans l'intention, l'objectif de stabiliser des populations sur place. Doit-on pour autant, et ça c'est mon troisième point, prendre pour argent comptant cette déclaration de M. Charles Michel et estimer qu'il y aura une force d'intervention européenne? Sur ce point, je dois quand même poser un bémol d'ordre analytique. Les Européens sont structurellement dépendants pour leur défense des États-Unis. Je pense que la question afghane va, à l'avenir, attirer l'attention, et fort heureusement d'ailleurs, des responsables européens sur cette dépendance, ce qui va évidemment, si des mesures correctives sont prises, nous amener à avoir davantage, à manifester davantage d'indépendance et d'autonomie par rapport aux États-Unis. Mais il faut quand même tenir compte d'un fait, c'est que si on regarde les dépenses militaires mondiales, les États-Unis en 2020 ont dépensé l'équivalent de 680 milliards d'euros en dépenses militaires. Et si je prends à l'intérieur du top 10 mondial, en fait, l'Allemagne apparaît à la 7e place avec 46 milliards d'euros qui ont été consacrés à son budget défense. Et d'autre part, la France, là aussi, 46 milliards. Donc, nous dépensons, nous, Européens, les deux principales puissances de l'Union européenne. Et je rappelle à cet égard qu'on ne peut plus compter sur le Royaume-Uni. Bien, nous dépensons à peine un sixième de ce que consacrent les États-Unis à leur défense. Donc, si nous devions développer, nous autres Européens, une capacité de projection stratégique importante, autonome, eh bien, ça prendra du temps, forcément, puisque nous avons cumulé des retards d'investissement dans ce secteur régalien depuis des décennies. Donc, je crains fort que la déclaration de M. Michel ne soit liée à l'agenda urgent de la question afghane et ne relève finalement que d'une espèce de vœu tout à fait impuissant, parce que les grands pays européens pour le moment s'apprêtent à gérer encore et toujours les conséquences de la crise Covid, donc à réduire, puisque nous sommes en train d'en sortir de cette crise sur le plan économique, donc à réduire leurs dépenses. Donc évidemment, ce ne sera pas le moment de compter sur une augmentation des dépenses militaires. Ce faisant, il faudra du temps pour que l'Europe puisse se constituer comme puissance militaire autonome des États-Unis. De surcroît, il y a fort à parier et à craindre que le temps que nécessite cette mise en place d'une véritable architecture de défense européenne, une architecture solide, eh bien, il faut craindre que cela prenne du temps et que, avec le temps, eh bien, on s'habitue à la situation telle qu'elle est en Afghanistan, C'est à craindre, en tout cas. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais c'est assez probable. Et que, chemin faisant, le souhait d'une communauté européenne de défense, eh bien, il s'estompe avec le temps. Vous savez, la communauté européenne de défense, cette idée que l'Europe doit se défendre elle-même, elle date des années 50, 1954 ou 55, si je ne m'abuse. Et ce fut un échec à l'époque. L'Europe s'est placée sous le manteau militaire américain et n'en est plus jamais sortie depuis. Et j'entends parler de mise en commun, de force de réaction, de constitution de bataillons européens. Jusqu'à présent, il s'agit tout de même d'initiatives qui portent sur finalement fort peu d'hommes et fort peu de moyens militaires. Donc il y a à craindre qu'on ne soit là que devant l'expression finalement d'un vœu, d'un souhait de politique européenne qui existe depuis des décennies, mais qui ne s'est jamais véritablement matérialisé. Je vous donnerai un seul exemple pour montrer à quel point nous ne sommes pas proches, hélas, de cette autonomie. Bien des gouvernements de petits pays européens du Nord, comme la Belgique, les Pays-Bas, ont dû, dans un passé récent, renouveler une partie de leur équipement d'aviation militaire. Ont-ils choisi le grand producteur local européen, qui est français, Dassault ? Non. Ils ont acheté des F-35, des avions de fabrication américaine. C'est dire à quel point l'Europe de la défense reste encore une perspective très, hélas, très lointaine. De ce point de vue, je dois constater que nous sommes encore et toujours, malheureusement, en tant qu'Européens, nous sommes un géant économique, un nain politique et un moustique militaire, pour reprendre la citation d'un ancien Premier ministre belge. Et je crains malheureusement que cela ne soit appelé à durer encore un certain temps, ne fût-ce même que parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose en termes de gestion des finances publiques au niveau européen, eh bien, c'est la réduction des déficits, donc la diminution des dépenses. C'est clairement mis à l'ordre du jour de la réunion des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne par le gouvernement allemand lui-même. Dans ces conditions, il est difficile de prévoir à court terme une augmentation des dépenses militaires de l'ensemble des États membres de l'Union européenne.
Leçon de la catastrophe afghane. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le président des États-Unis, Joe Biden. Jamais Washington n'a eu pour objectif de venir en aide aux Afghans et encore moins de construire leur État. Tout ce que nos médias ont raconté durant 20 ans n'était que de la propagande. Dans son discours du 16 août à la Maison-Blanche, le président Biden a fait une déclaration lapidaire. « Notre mission en Afghanistan n'a jamais eu comme but la construction d'une nation. Elle n'a jamais eu comme but la création d'une démocratie unifiée et centralisée. » Pierre Tombal, posé par le président des États-Unis lui-même sur la narration officielle qui a accompagné pendant 20 ans la mission en Afghanistan dans laquelle l'Italie et la France aussi a dépensé des vies humaines et des milliards d'euros d'argent public. Notre unique intérêt national vital en Afghanistan reste aujourd'hui ce qu'il a toujours été, prévenir une attaque terroriste contre la patrie américaine, explique Biden. « Mais sur ces paroles, une ombre est jetée par le Washington Post qui, voulant débarrasser ses propres placards des squelettes de fake news diffusés pendant 20 ans, titre « Les présidents des États-Unis et les dirigeants militaires ont délibérément fourvoyé le public sur la plus longue guerre américaine conduite en Afghanistan pendant 2 décennies ». Le public a été délibérément fourvoyé depuis qu'en octobre 2001, les États-Unis, flanqués de la Grande-Bretagne, attaquaient et envahissaient l'Afghanistan au motif de donner la chasse à Oussama Ben Laden, poursuivi comme mandat de l'attaque terroriste du 11 septembre dont la version officielle prenait haut de toutes parts. Le but réel de la guerre était l'occupation de ce territoire de première importance géostratégique frontalier avec les 3 républiques centra-asiatiques ex-soviétiques, à savoir le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, l'Iran, le Pakistan et la Chine, région autonome du Xinjiang ouïghour. Il y avait déjà à cette période de forts signaux d'un rapprochement entre la Chine et la Russie. Le 17 juillet 2001, les présidents Jiang Zemin et Vladimir Poutine avaient déjà signé le traité de bon voisinage et de coopération amicale défini comme une pierre angulaire dans les relations entre les deux pays. Washington considérait l'alliance naissante entre la Chine et la Russie comme une menace pour les intérêts états-uniens en Asie, au moment critique où les États-Unis essayaient d'occuper avant les autres le vide que la désagrégation de l'URSS avait laissé en Asie centrale. La possibilité existe qu'émerge en Asie un rival militaire avec une formidable base de ressources, avertissait le Pentagone dans un rapport du 30 septembre 2001. Ce qu'était le réel enjeu allait être démontré par le fait qu'en août 2003, l'OTAN sous commandement US prenait part à un coup de force. Le rôle de leadership de l'ISAF, donc la Force internationale d'assistance à la sécurité créée par les Nations Unies en décembre 2001, sans qu'à ce moment-là, elle n'ait aucune autorisation de le faire. À partir de là, plus de 50 pays, membres et partenaires de l'OTAN, participèrent sous commandement US à la guerre en Afghanistan. Le bilan politico-militaire de cette guerre qui a versé des fleuves de sang et brûlé d'énormes ressources est catastrophique. Des centaines de milliers de morts chez les civils provoqués par les opérations guerrières, plus un nombre incalculable de morts directes à cause de la pauvreté et des maladies causées par la guerre. Les États-Unis, à eux seuls, documentent le New York Times, ont dépensé plus de 2 500 milliards de dollars. Et pour entraîner et armer 300 000 soldats gouvernementaux débandés en quelques jours devant l'avancée talibane, les USA ont dépensé environ 90 milliards de dollars. Environ 55 milliards pour la « reconstruction » entre guillemets ont été en grande partie gaspillés à cause de la corruption et de l'inefficience. Plus de 10 milliards de dollars investis en opérations antidrogues ont eu comme résultat la multiplication par 4 de la surface cultivée d'opium, si bien que l'Afghanistan fournit aujourd'hui 80% de l'opium produit illégalement dans le monde. Emblématique est l'histoire d'Ashraf Ghani, le président actuellement en fuite vers un exil doré. Formé à l'université américaine de Beyrouth, il faisait carrière dans les universités Columbia, Berkeley et Johns Hopkins aux USA et à la Banque mondiale à Washington. En 2004, au poste de ministre des Finances, il obtenait des pays donateurs, dont l'Italie, un paquet d'assistance de 27,5 milliards de dollars. En 2014, dans un pays en guerre sous occupation USA-OTAN, il était nommé président avec officiellement 55% de voix. En 2015, le président italien Sergio Mattarella le recevait avec tous les honneurs du Quirinal avec la ministre de la Défense Roberta Pinotti qu'il avait rencontrée un an avant à Kaboul. Cette catastrophique expérience s'ajoute à celle que l'Italie a déjà vécue pour avoir participé en violant sa propre constitution aux guerres de l'OTAN dans les Balkans, le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais aucune leçon n'est tirée par les forces politiques qui siègent au Parlement. Tandis qu'à Washington, le président lui-même démolit le château de mensonges sur les buts humanitaires élevés avec lesquels a été motivée la participation italienne à la guerre en Afghanistan, à Rome, comme dans le roman 1984 d'Orwell, on efface l'histoire.